Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Flora Messi.
Il est 11h04, bienvenue sur RMC. Si vous nous rejoignez dans les grandes gueules du sport, on vous accompagne jusqu'à midi. Ensuite, ce sera les paris RMC, évidemment. On est avec Julien Beneteau, Pascal Duprat, Simon Dutin et Jérôme Pinault. C'est la dernière heure. On parlera tennis sur le buzzer avec Louise Boisson et ses ambitions à Roland-Garros. Et on terminera, bien sûr, par les jeux du sport. Ce week-end, on vous offre votre party box portable Bluetooth de la marque française Muse. Une enceinte puissante avec lumière d'ambiance multicolore et un micro filaire pour vos meilleurs karaokés, Jérôme. Ça peut toujours servir.
Intéressant.
Pour la remporter, vous appelez le 32-16, touche 4, ou vous envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Bonne chance à tous. Mais d'abord, on va ouvrir tout de suite le vestiaire des GG.
RMC, le vestiaire des GG.
Cette semaine, Steve Mandanda, ancien international français et gardien de l'Olympique de Marseille, a sorti un livre dans lequel il revient sur les difficultés de son après-carrière. Une retraite difficile à vivre qui l'a même plongé dans une profonde dépression.
Jusqu'à présent, ça fait depuis l'âge de 14 ans où j'ai des reprises tout le temps, où il y a une prépa. Là, tu vois les gens sur les réseaux, les clubs reprennent, les équipements, le truc, les matchs amicaux, tout ça. Et toi, t'es là, tu fais rien. Et la difficulté, en fait, pour moi, ça a été... ce moment de vide où tu fais strictement rien, en fait. Tu fais rien parce que, un, tu te sens pas bien, tu ne sais pas quoi faire parce que tu as été habitué à aller à l'entraînement tous les jours. Tu tombes dans un cercle vicieux où moins tu fais, plus, entre guillemets, tu te dégrades. Plus tu te dégrades, moins tu veux sortir pour pas croiser du monde, pour éviter soit une photo, soit un truc comme ça, ou soit qu'on te fasse une réflexion. Ah, putain, mais t'as la tête ou... Et puis, au final, plus ça va, plus tu t'enfonces et moins tu fais. Pour moi, à ce moment-là, oui, j'étais en dépression.
Des mots forts qui, je le sais, doivent résonner chez certains d'entre vous autour de la table. On sait à quel point l'arrêt d'une carrière et le vide qui s'ensuit peut être difficile à vivre, ou pas, d'ailleurs, si cet arrêt est anticipé et choisi aussi par le principal intéressé. Alors j'ai envie d'avoir votre expérience à vous de cette retraite, de cette petite mort, comme certains l'appellent. Est-ce que vous l'avez vécu comme ça ou non? C'est intéressant d'avoir votre ressenti. Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui veut démarrer en premier. Jérôme, peut-être.
Alors je vais y aller, je crois.
La petite mort n'est pas arrivée encore, Simon.
Moi, j'ai jamais vécu la petite mort. Donc, comme ça, c'est assez simple. J'avais prévu d'arrêter l'année où j'ai arrêté. J'avais préparé ma reconversion dès ma deuxième saison chez les pros, parce que dans le cyclisme, les contrats sont très courts et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et j'avais surtout envie de faire autre chose. Donc, j'avais pas ce manque-là. Peut-être un peu plus tard, lorsque moi j'ai arrêté fin août. Au grand dam de mon employeur à l'époque, ce qui m'a payé jusqu'en décembre. Mais j'ai ressenti ce spleen un peu surtout l'été d'après, quand j'étais avec l'équipe RMC sur le tour, et là, t'y es plus, quoi. Tu fais plus partie du cirque. Alors t'es un peu à côté, mais cette envie-là d'aller m'entraîner, le manque des équipements, le manque de repères, pas du tout, en fait. Je pense que ça dépend aussi comment tu prévois la suite. Et Steve a fait la même démarche que moi, et c'est pour ça que c'est étonnant qu'il ressente ça, parce qu'on est allé tout de suite au Centre de droit et d'économie du sport à Limoges pour passer ce diplôme, mais surtout continuer à exister, à entretenir cette relation entre sportifs, puis se dire qu'on n'est pas bon à rien, parce que c'est important de prendre conscience qu'on sait faire autre chose. Le manque, pour moi, de la compétition, je pense que j'étais allé au bout et que l'exercice éreintant de l'entraînement, l'hygiène de vie, d'arrêter toute vie sociale au 1er janvier, ça m'a vraiment pas manqué. Les hôtels, les déplacements, ça m'a vraiment pas manqué non plus.
Et le collectif, le fait, parce que c'est ce qu'évoque aussi Steve Mandanda, quand on est dans des sports collectifs ou quand on est entouré en permanence de joueurs autour de soi, ou même dans des sports individuels, il y a un microcosme qui fonctionne en fait autour de nous, et on se retrouve d'un coup exclu justement de cet environnement-là.
Ça oui, la seule différence c'est que le collectif, pour moi, il a été très peu abandonné, parce que j'ai à peu près fait comme tous les sportifs de haut niveau, j'ai accepté toutes les propositions qu'on m'a faites la première année. Donc j'avais tellement de choses à faire que j'étais toujours avec du monde. Et puis j'étais surtout en train d'écrire le projet de l'équipe cycliste professionnelle. Donc très vite, je sais que j'allais retrouver un collectif. J'ai tout de suite regroupé mes futurs collaborateurs dans l'année qui a suivi pour créer l'équipe, en plus de Limoges. Donc évidemment, j'étais toujours en groupe. Et c'est qu'après, je pense, que j'ai eu ce spleen-là, parce que là, pour le coup, ce manque de collectif, quand j'étais manager général, je pense que Pascal c'est là que t'es le plus seul dans ta vie.
Ça, je me reconnais dans tout ce que tu dis, en fait, Jérôme. Bon, alors, pour des raisons différentes. Moi, j'ai arrêté très jeune ma carrière de footballeur professionnel à 30 ans, mais c'était décidé. À partir du moment où j'intéressais plus les clubs de D1 à l'époque, parce que c'était D1 et D2 et non pas Ligue 1, Ligue 2, à partir du moment où j'ai commencé à jouer en D2, je me suis dit, faut que j'arrête. D'autant que j'avais des problèmes de tout le temps de blessures récurrentes, c'était pénible. Donc, et puis, il y a eu, surtout, pour moi, une image qui m'a fait dire qu'il fallait que j'arrête, c'est ma famille, mes parents n'avaient qu'une vingtaine d'années de plus que moi, et une première fois j'ai vu ma maman vieillir, ouais. Donc j'ai dit il faut que je rentre. Ça faisait depuis l'âge de 14 ans que tu t'entraînes comme un asset, tu penses qu'à ton football avec une réussite qui oscille, en tout cas pour ma part. Donc il fallait que je rentre, mes montagnes me manquaient, ma Haute-Savoie me manquait, ma frangine me manquait, j'avais envie d'être respiré l'air pur, j'avais envie de retrouver ma famille, j'avais intégré que j'allais rejoindre l'entreprise du familial, j'allais reprendre peu à peu la succession de mon père, puis il se trouve que j'ai fait tout autre chose, mais franchement, le foot ne m'a pas manqué, sauf comme l'a dit Jérôme, le premier match de la saison suivante où ben j'étais pas dans le truc et je me suis dit merde, j'y suis plus quoi. Là, tout d'un coup, c'était le premier, on va dire le premier écueil, mais franchement, j'étais, si je peux qualifier l'arrêt de ma carrière, j'étais heureux d'arrêter. Voilà, heureux d'arrêter choisi, ma carrière, parce que c'était choisi. Et puis ensuite, j'ai pallié grâce parce que ça m'est tombé dessus comme ça. J'avais pas envie d'entraîner. Je suis allé m'inscrire avec mes copains dans un petit club qui s'appelait le FC Gaillard. J'en suis devenu l'entraîneur et après, mon histoire, elle est repartie d'une autre manière, absolument surprenante et en tout cas pas préparée. Sauf qu'à partir du moment où j'ai entraîné, je me suis mis dedans à fond parce que je suis un passionné. Donc voilà, non, ma carrière, pas de dépression nerveuse, rien du tout. Tout était magnifié pour moi quand j'ai arrêté.
On va entendre évidemment Julien aussi là-dessus, c'est intéressant et je vous relancerai parce que finalement vous n'êtes jamais jusque-là allé très loin non plus de votre zone de confort, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que toi Jérôme dans le cyclisme, Pascal est resté aussi dans le foot, toi pareil aussi Julien.
Ouais, moi j'ai eu la chance aussi, comme mes collègues d'aujourd'hui, de choisir ma quand est-ce que j'allais arrêter. Donc j'avais aucune espèce d'amertume par rapport à ça. Et en plus, moi j'ai eu la chance de tout de suite embrayer sur le rôle de capitaine de l'équipe de France féminine. Donc je suis resté un petit peu pendant 5-6 ans dans le milieu. Quand Jérôme dit quand j'ai fait le premier Tour de France pour RMC, j'ai l'impression d'être à l'extérieur. Moi, en tant que capitaine, quand j'allais encore sur les tournois du Grand Chelem, on est encore dans le milieu, même si je suis plus acteur en tant que joueur. Et puis, ça me manquait pas. Il y a de temps en temps des tournois, des époques dans l'année qui me manquaient entre guillemets ou qui me manquent de temps en temps. Mais t'es toujours dans le. Tu parlais de microcosme, dans le circuit. Et par contre, moi, j'ai ressenti effectivement. Aujourd'hui, ça fait un an à peu près que j'ai arrêté le rôle de capitaine. Et donc sur la partie sportive dans le tennis, je suis un peu à l'extérieur de tout cela. Et effectivement, t'as un peu pas un sentiment d'exclusion, mais tu dis ok, c'est des cycles. Il y a des personnes qui sont là, qui pensaient à toi à un moment donné, on pense plus à toi à ce moment-là. Tu fais d'autres choses, un peu plus de médias, un peu plus des trucs en entreprise. Tu vas dans d'autres domaines pour voir.
Tu te challenges, c'est ça. C'est ce qui est bien.
Exactement, tu te challenges, mais au fond de toi, il y a quand même ce truc où tu appartiens à ce milieu, tu appartiens à ce sport, tu appartiens à ce grand circuit, à ce grand truc. Et c'est dur de se dire, tiens, j'en suis complètement exclu. D'une manière ou d'une autre.
T'y es plus, quoi.
Ouais.
Moi, il y a quelque chose qui me manquera toujours, pour compléter ce que vous venez de dire. Par contre, c'est le vestiaire. Le vestiaire quand j'étais joueur, hein. C'est-à-dire, voilà, moi, j'oublie jamais de dire aux joueurs que j'entraîne, je fais des mauvaises passes et je fais des conneries. Et croyez-moi, des conneries, j'en ai fait dans les vestiaires avec tous mes collègues. J'ai passé des moments. Le football a ceci d'exceptionnel, c'est que dans le vestiaire, il se passe des trucs où t'es toujours en train de te marrer, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui me manquera probablement à vie. Ce rapport-là au vestiaire contre les joueurs. Donc. Oui, alors que moi, si t'es mieux, je sais que je serai plus joueur. Ah bon, ma carrière d'entraîneur, j'espère la continuer. C'est là où on en parlait hier, Flora. Il faut pas qu'elle se termine comme ça, ma carrière d'entraîneur. J'espère encore entraîner parce que j'ai l'impression que je suis pas allé au bout.
Que t'as pas tout donné encore, ouais.
Voilà. J'en ai encore, mais j'ai pas d'amertume, hein, qu'on soit bien d'accord. Oui, ça fait 3 ans que je n'entraîne plus. J'aurais pu continuer. Quelquefois, j'ai arrêté. Les propositions exceptionnelles n'ont pas été nombreuses. Je dois le reconnaître. Il faut avoir cette humilité-là. Mais c'est pas la même mort. Si ça devait être la mort comme ceci, j'en conserverais un petit regret. Voilà.
Alors que moi j'ai subi la fin de mon rôle de manager dans l'équipe, j'en veux encore beaucoup à certaines personnes, mais ça me manque pas. Et par contre, je sais que dans le peloton, je commençais à m'ennuyer quand j'étais coureur. Donc je me suis dit là, si tu commences à t'ennuyer dans le peloton, les codes ont changé, les générations ont changé, je devenais un vieux con, donc j'avais peur de tout et j'étais contre les jeunes. Je pense que c'est parce qu'ils me foutaient dehors. Mais par contre le plus beau métier que j'ai exercé dans ma vie, et je peux tout faire jusqu'à la fin de mes jours, c'était coureur cycliste professionnel. J'en suis
pareil,
persuadé.
Pour nous,
le sport de haut niveau, quand tu es payé pour faire ta passion, l'émotion que ça crée, j'ai été manager. Aujourd'hui, je cherche des émotions ailleurs. Donc je passe des super moments et commenter les courses, ça crée de l'émotion. Faire des émissions avec vous tous, c'est génial. J'adore ça. Je le ferai volontiers toute ma vie. Ouais. On me demanderait de revenir dans le cyclisme. C'est niette.
Ouais.
Manager, contre, Jérôme, c'est niette. En revanche, j'ai entamé un nouveau cycle dans ma vie professionnelle aujourd'hui. C'est d'être aux côtés d'un club de football, qui est ma deuxième passion. Et là, ça me motive. Et là, j'ai envie de faire les choses. Et là, je veux retourner au charbon. Je le ferai pas dans mon milieu.
Ben, je suis comme toi.
Par contre, Jérôme, je voudrais juste te dire quelque chose. C'est moi, tu sais que je veux ton bien. Je t'apprécie beaucoup, comme tous, hein.
Je sais.
Mais quand tu dis que tu as un relent et que tu as des personnes en qui tu en veux, viens me trouver qu'on en discute. Parce que les gens qui te flinguent, faut pas leur en vouloir. Bien au contraire. Ça te fera du bien à toi de plus leur en vouloir à ces gens-là. Voilà. Viens me voir qu'on discute.
Mais déjà, on a prévu de se voir.
On a des choses à dire, Pascal.
Mais
il va
voir ce qu'il y a. Non, mais
c'est gracieux. C'est gracieux.
Ouais. Parce que moi, je suis là-dedans aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai été capitaine de l'équipe de France féminine. Ça me manque pas. Et j'ai pas envie de. Voilà. Dans le tennis, dans le tennis français, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'aimerais faire? Oui.
Ah, mais j'allais te poser cette question-là, toi. Et si c'était les hommes qui te. Si tu étais capitaine de l'équipe de France masculine, est-ce que tu irais?
Oui.
C'est le même job, mais pour les garçons.
Parce que ce sera un nouveau challenge, et ce sera un nouveau truc. Oui. Mais ce serait. Il n'y a pas beaucoup de choses dans le tennis qui me donneraient envie de replonger. Par contre, ce que fait Jérôme dans une autre discipline.
Ouais.
Le
foot,
le rugby.
Je suis un passionné de sport.
Je joue beaucoup au golf. Je connais quelques joueurs de golf professionnels. Ils ont exactement la vie que moi j'ai connue. Mm-hmm. Sport individuel, itinérant, où tu gagnes pas souvent.
Ça nous fait des points communs. Hein.
Exactement. Mais quand j'échange avec eux.
C'est sûr.
Je serais prêt à m'investir avec eux de manière plus pérenne parce que c'est un nouveau milieu et que j'ai envie de à la fois de me challenger et d'apporter une expérience à d'autres personnes que le milieu dans lequel j'ai baigné.
Moi, le milieu qui me plairait d'investiguer, en toute modestie, d'amener quelque chose en termes de management, c'est le rugby.
Ouais.
Vraiment, parce que j'adore ce sport.
Pareil, je suis comme toi.
Et ils me font kiffer. Ouais. C'est quand tu discutes avec eux.
Ouais,
tu parlais des footballeurs professionnels tout à l'heure, et souvent je suis à leur défense parce que j'aime pas qu'on critique mon sport. Vous devez le comprendre.
Bien sûr, bien sûr.
Mais
normal.
Mais les rugbyman, ils sont géniaux. Quoi. Moi, quand je vais voir les rugbyman à Toulon, ils me reconnaissent, ils viennent me voir, ils viennent boire un café avec moi, ils sont simples.
Il y a Denis Charvet qui est un peu compliqué, mais autrement, ça va.
Bah, attends, il me fait gagner, il m'a fait transformer mes pronos.
Marie, le point commun, que moi je vis au sein du club de Saint-Nazaire actuellement dans le football, c'est cette envie aussi et cette moi, je suis profondément persuadé que de ce que l'on a vécu dans nos carrières, on peut le retranscrire dans n'importe quelle discipline.
Il y a cette volonté de transmettre quelque chose aussi.
C'est quelque part de l'entrepreneuriat. On est nos propres chefs d'entreprise, quel que soit le sport pratiqué. T'as beau être footballeur, je pense que t'es quand même ta boîte à toi, c'est ton corps, c'est ta performance. Et aujourd'hui, on apprend ça. Et moi, je pense que les choses que l'on a appris là, moi, je suis au service de mon ami Johan Poulard, qui est président du SNAF, c'est aller chercher, monter de l'entrepreneuriat, un club partenaire pour aller chercher un peu de sous pour aider ce club-là. Mais ça revient à quoi? À croiser des gens, à sentir la pelouse, à croiser des athlètes. Hier, on a joué un match pour la montée, on a perdu.
Créer du lien, échanger.
Tu leur parles et tu crées du lien. Aussi, c'est-à-dire qu'il y a cette adrénaline aussi que vous allez chercher ailleurs, finalement.
Avant-hier, on a fait une dernière réunion avec tout le membre du staff du SNAF, et je leur ai laissé un message à la fin à Johan. Je lui ai dit, écoute, pour la première fois depuis que j'ai arrêté ma carrière, je suis stressé pour demain. C'est fou.
C'est bon signe.
Et c'est ça qu'on va chercher, tout simplement, pour pas que tout s'arrête.
Finalement, quand je vous écoute aussi, j'ai l'impression que s'il y a un conseil que vous donneriez à un sportif actuellement en activité et qui se pose la question de la retraite, c'est l'anticipation aussi, le choix, savoir s'arrêter au bon moment. Et puis aussi peut-être, toi tu le dis, dès ta deuxième année de professionnel, Jérôme, tu avais déjà anticipé finalement ce que tu allais faire après.
Bien sûr, nous on avait le syndicat UNCP qui proposait des formations pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, pour anticiper la fin. Bilan de compétences, etc. Nous parler de ce qu'aller. Et je pense que quand tu fais ça, et que moi, ma carrière a été beaucoup plus longue que ce que j'aurais pu espérer, parce que je savais que ça allait pas durer longtemps, mais j'étais sûr d'une chose, c'est que l'après serait pas galère parce que je l'avais préparé.
Ce qui peut être une source d'angoisse, hein, d'ailleurs. Enfin, vous y avez réfléchi pendant votre carrière, mais c'est se demander, parce qu'une carrière de sportif, c'est très court. Finalement, on le sait dès le départ. Mais ça passe aussi vite quand on est dedans, et quand on arrive devant le fait accompli et qu'on se dit, j'ai pas anticipé, je sais pas ce que je vais faire. Il y a ce vide qui arrive dont a parlé Steve Mandanda et qui peut être terrifiant.
Il y a une chance aussi qu'on a, nous, dans notre sport, c'est que, à part les très grands, tu peux pas arrêter ta carrière et dire je vais vivre sur ce que j'ai gagné.
Oui. T'es donc obligé d'avoir.
Et souvent, les grands champions ont beaucoup de mal à repartir parce que eux, ils sont là-haut. Financièrement, ça va. Mais en fait, moi, ce que j'ai appris d'après ma carrière, et surtout après Paris, et je ne veux pas reparler des gens à qui j'en veux, mais moi, j'ai tout perdu. Donc, à un moment donné, le bonheur, tu sais qu'il n'est pas que dans l'oseille, parce que sinon, je ne serais plus là. Donc,
c'est pareil pour nous. Hein.
Mais c'est pareil pour beaucoup.
Même au foot, où on gagne beaucoup d'argent, mais bon, après, les époques ne sont pas les mêmes.
L'activité,
il n'y en a que très peu qui gagnent beaucoup d'argent.
Et l'activité, elle reste néanmoins vitale, parce que si tu n'es. T'as beau avoir tout ce que tu as voulu dans ta carrière et tout ce que tu veux après. Si t'as pas un sens à ta vie, mais t'es perdu en fait.
Ouais,
surtout
ça,
que nous, on a toujours
donné
du sens
à sa vie. C'est là, quand tu l'as donné pendant. Parce que quand tu es footballeur ou quand tu es sportif professionnel, tu donnes du sens à ta vie, comme de manière peu commune. Peu de gamins à 14 ans, se consacrent à leur sport. Et il faut avoir, je suis désolé, des corognesses pour partir à 14 ans, des jupons de ta mère pour te retrouver au centre de formation du Sochaux. Ça calme.
Mais ne
cesse,
Pascal, et je pense que c'est pareil, faut déjà être câblé différemment pour à 14 ans ou 15 ans, moi ça a été mon cas un peu plus tard, dire non, on va pas boire un verre parce que moi demain je cours, demain je m'entraîne. C'est rare, ça n'existe pas en fait.
Tu te mets forcément
en Je ne vis pas parce que j'ai un but dans ma vie, c'est d'être professionnel. Ça te construit. Hein.
Mais c'est exactement c'est ça. Sûr. Et Andy Murray qui a arrêté, et donc lui c'est un des très très grands, il est gagné Wimbledon, il est multimillionnaire, etc. Et il expliquait dans une interview que le golf, quand on parlait de sens, ça lui a donné un sens dans la signification où il a retrouvé une espèce de routine et d'exigence qu'il a envers lui-même pour
rythmer aussi son quotidien.
Exactement. Et son cerveau, et parce que ce que disait Mandanda, quand il dit là il y avait c'est le moment de la reprise, c'est le moment du truc,
c'est rassurant, il y a un cadre.
Exactement. En fait, il a retrouvé un cadre de manière complètement amateur, mais comme il est compétiteur, perfectionniste, il se challenge, qui se rapproche de ce qu'il a connu en tant que joueur de tennis professionnel. Donc oui, c'est pour dire que
il y a un côté un peu addict aussi quand
exactement,
même
exactement qu'on
ça.
A besoin quand même d'avoir des projets, un sens et quel que soit le domaine. Et moi ces derniers mois, enfin la dernière année, ça quand ça s'est arrêté et que j'avais pas d'autres projets dans le tennis pur, et à un moment donné c'était un peu ça qui me manquait. Mais quel sens quel est le sens que je vais donner, vers quoi je vais essayer de m'orienter, de quelle manière, comment, et il y avait toujours un peu des freins. Ah oui, mais attends, si je me disais, ben si je veux essayer de m'investir pleinement dans tel domaine, si dans un autre domaine on me rattrape, on me rappelle, est-ce que je serai disponible, est-ce que je, et à un moment donné, ben non, ok, accepte. Ben, dans ce domaine-là, t'as donné ce que t'as donné et peut-être que tu y reviendras dans quelques années et investis-toi à fond dans un autre domaine.
C'est ce qui fait aussi la force des sportifs en après-carrière et c'est pour ça que certaines entreprises l'ont très bien compris.
C'est
que
rechercher.
On est assoiffé de défis. Nous, au bout de 2-3 ans, associé dans mon magasin de cycle, ça y est, j'ai fait le tour. Je sais que je vais prendre des risques, je vais reprendre des risques, retenter autre chose, faire autre chose, parce que on est fait comme ça. Mais pour des entreprises, c'est du pain béni. Un garçon qui se lève le matin et qui se dit, faut aller, faut charbonner, mais demain tout peut s'arrêter, donc je vais mettre les bouchées doubles. Ouais. Et de toute façon, si quasiment j'arrive au bord du précipice, c'est là que je vais être le meilleur. Bah pour beaucoup d'entreprises, c'est fantastique, hein, parce que c'est dentaire. Nous, on ne sait pas ce que c'est. Hein.
Simon, pour conclure.
Ah, je vais commencer par la palissade. Je pense que le défi est pas le même selon les sportifs, selon les athlètes, selon les disciplines et selon du coup l'altitude à laquelle t'as évolué. Quand tu redescends de l'Everest, tu le fais par palier. Tu redescends du Mont d'Or, tu peux accélérer un peu, tu vois. Et je pense que la préparation, Jérôme en a parlé, la projection vers ce qu'on appelle la petite mort dans le jargon, elle est fondamentale. Après, je pense que ne plus quantifier ton bonheur, ne plus mesurer ta réussite en fonction de l'aléa des performances et de tes objectifs, c'est une façon, je pense, de reprendre une forme de contrôle sur ta vie, sur tes attentes. Après, les copains l'ont dit, je pense que la priorité, c'est de trouver quelque chose. Tu parlais du golf, Bennett. Trouver quelque chose qui remplace ce miroir, le miroir de tes attentes et de tes
objectifs. Ça, c'est dans l'effort physique. Mais après, au niveau intellectuel, faut trouver.
Être stimulé aussi à ce niveau-là pour garder un cap aussi dans sa vie. Effectivement, passionnant sujet où on a dévié un petit peu de la petite mort pour parler de concrètement qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on arrête. 11h27 sur RMC. Les GG sur le buzzer, c'est dans quelques instants. On va évoquer Loïs Boisson à une semaine du début de Roland-Garros, sans oublier les jeux du sport. Venez participer avec nous, on vous attend au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi. Il est 11h30, vous êtes bien dans les grandes gueules du sport sur RMC. On vous accompagne jusqu'à midi. On est avec Julien Beneteau, avec Pascal Duprat, avec Simon Dutin et Jérôme Pinault. Avant de parler tennis sur le buzzer et de Loïs Boisson, on vous rappelle qu'on vous faisait gagner ce matin des places pour la finale de la Coupe de France Crédit Agricole entre Lens et Nice le 22 mai prochain au Stade de France. Et on a la chance d'avoir avec nous Thomas qui a remporté ces deux places ce matin. Salut Thomas, félicitations.
Merci beaucoup, salut à tous.
Bravo Thomas, bonjour.
Alors, est-ce que tu es supporter d'une des deux équipes ou pas?
Je suis supporter du Racing Club de Lens.
C'est vrai?
Pour tout vous dire, j'étais à la dernière finale de Coupe de France, la fameuse contre Paris avec la banderole.
Ouais.
Donc, ça fait très plaisir de pouvoir y retourner et de pouvoir les supporter.
Eh bah, super, t'as deux places, tu sais déjà avec qui tu vas y aller?
J'ai pas mal de potes qui, on était tous
essayés
d'avoir des places il y a pas une semaine là. Donc je pense que ça va un peu se battre au portillon pour pouvoir venir avec moi. Donc c'est top.
Il va falloir que tu négocies bien pour savoir qui tu vas emmener avec toi, Thomas.
Exactement.
félicitations à toi, merci d'avoir joué. Et puis bon match pour cette finale de la Coupe de France le 22 mai prochain.
Merci beaucoup et continuez comme ça, c'est top. Je vous écoute souvent le dimanche matin en courant, c'est toujours hyper intéressant.
Merci.
Tu dois
beaucoup.
Pas courir assez vite alors, hein, parce que si tu courais assez vite, tu pourrais pas nous entendre. Normalement ça bourdonne dans les oreilles.
Merci et félicitations Thomas.
Merci beaucoup.
Place pour la finale de la Coupe de France Crédit Agricole, Lens-Nice sur RMC.
Allez, avant de parler jeu du sport dans quelques instants, vous le savez, dans une semaine, c'est le début du tableau principal de Roland-Garros et beaucoup de questions se posent autour de la forme de nos Français et notamment de la numéro 1 tricolore, Loïs Boisson.
RMC, les GG sur le buzzer.
Attention, ça monte au ciel.
Ça monte au ciel, c'est dans le
coulis. C'est fait, la tombe sur le dos.
C'est incroyable.
Loïs Boisson, 361e mondial, wildcard.
Elle est allongée sur le
coup. Demi-finale de Roland-Garros. Et Mirandeva qui range des as et raquettes.
Jamais vu.
La douce voix d'Eric Salio qui nous a rejoint en plateau. Salut Eric.
Bonjour les grandes gueules du sport, pardon.
Salut Eric.
Toujours pas la moindre victoire pour Loïs Boisson depuis le début de l'année. Depuis son retour de blessure, elle sera alignée sur le tournoi WTA 500 de Strasbourg. Sa seule préparation donc pour Roland-Garros, le grand chelem parisien, on l'a entendu, qui lui avait permis l'année dernière d'exploser aux yeux du monde entier en atteignant les demi-finales. Mais Eric, le moins qu'on puisse dire quand même, c'est que Loïs Boisson va pas aborder ce Roland en toute confiance.
Non, mais elle a été accablée par la malchance, par les blessures. J'avais eu l'occasion de la rencontrer au mois de novembre pour les interclubs au TCBB. Elle sortait d'une petite intervention au genou et ensuite elle a eu un truc à l'avant-bras droit qui a été mal géré, on va dire, mauvais diagnostic, soins pas forcément appropriés. Elle a repris qu'à Madrid au mois d'avril, donc elle part avec un retard énorme sur ses rivales. Mais j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux, même s'il y a pas de victoire, elle progresse, elle peut de nouveau s'entraîner correctement, c'est l'impression que j'ai eue. Et donc elle va jouer à Strasbourg, tu l'as dit, cet après-midi contre une Chinoise qui est 33 mondiale, pas simple.
Quand même, ouais.
Mais en conférence de presse, elle a été interrogée sur ses retrouvailles avec Roland, bien sûr, et je trouve que ce sont des propos plutôt optimistes.
À Roland, c'est différent, les cours sont différents, le bruit est différent, plein de choses est différent. Moi, c'est des choses qui, heureusement pour moi, que j'aime bien, en tout cas les conditions là-bas. Forcément, je pense que c'est un tournoi où je vais me sentir bien tous les ans. Après, on sait que chaque année est différente. Il y a des années où là, c'est complètement différent de l'année dernière. Je reviens avec moins d'entraînement, moins de préparation. Après, est-ce que là-bas, je vais me sentir bien? Je pense que oui, dans tous les cas, au vu de que j'aime les conditions, mais chaque année, ce sera forcément différent.
Ouais, on va guetter son match à Strasbourg. Et puis maintenant, il y a une question qu'on peut. C'est une sorte de débat aussi. Roland, est-ce qu'il ne faut pas la protéger quelque part, la cacher? Est-ce qu'il faut l'exposer sur le central pour son premier tour? C'est une question que j'ai envie de poser aux grandes gueules, parce que ce ne serait peut-être pas lui rendre service de la propulser tout de suite sur un cours de 15 000 places. Moi, je me demande, le Simone Mathieu, le Lenglet, ça pourrait être sympa.
C'est la question qu'on va se poser aussi à travers sa présence à Roland-Garros, évidemment. Est-ce que Roland-Garros peut permettre à Loïs Boisson de se transcender, de lancer enfin sa saison? C'est la question qu'on se pose ce matin à les GG. Petit tour de table, Pascal.
S'il y a bien un endroit, c'est celui-ci.
Effectivement. Jérôme.
Non.
Simon.
Oui.
Julien.
Je suis assez d'accord avec Pascal, et en fait, pour moi, sa saison et sa carrière, je vais m'expliquer, doit commencer et va commencer le lendemain de Roland-Garros.
D'accord. Alors vas-y, développe parce que c'est intéressant.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, elle est 43e mondiale. L'année dernière, quand elle fait sa demi-finale, son meilleur classement, elle a atteint quoi? Quelle place, Eric? Je te pose une colle. Oui. Elle a été entre 20e et 30e? 30e mondiale dans les 30? Bon, bref.
Après Roland?
Oui,
au-delà, ouais, c'est ça à peu près, ouais, dans ces eaux-là.
Si elle, et en fait, et on l'a entendu dans les commentaires, elle était 350e ou
361e.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Loïs Boisson, en fait, elle n'a aucune expérience, elle n'a pas encore commencé sa carrière, c'est-à-dire que elle n'a pas pu vivre une saison, deux saisons pleines sur le vrai circuit, à jouer les 250, les 500, les 1000, les grands chelems, etc. La demi-finale de Roland-Garros de l'année dernière devait lui permettre de faire ça. Et en fait, elle a pas pu capitaliser. Elle a un petit peu capitalisé parce qu'elle a quand même gagné un titre au mois de juillet. Et derrière, elle a été blessée. Donc en fait, elle n'a pas encore pu connaître ça. Donc aujourd'hui, elle est 43e mondiale. Elle perd au premier tour de Roland-Garros. Elle se retrouve 120e mondiale, à peu près. Et ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'elle a un classement protégé. Donc cette technique, grâce ou à cause de sa blessure, elle a un classement protégé qui doit être aux alentours de la 40e place et qui va lui permettre ce classement-là. De se servir de ce classement pour s'inscrire dans les tournois qu'elle voudra jouer 9 ou 12 fois. Donc, très vite, son vrai classement qui est 120e mondial, en fait, c'est celui-là aujourd'hui. Moi, je serais elle, je serais son coach. Je dis, T'es pas 40e, Louis.
Je pense pas aux 40, ouais.
T'étais 120e. Et puis maintenant, tu construis à partir de là. Et tu vas remonter très vite. Si tu n'es pas blessé, avec la qualité du jeu, avec ta qualité physique, tu vas remonter très vite et tu vas pouvoir commencer ta carrière, gagner de l'expérience, et tu referas des coups d'éclat et un grand coup un jour à Roland-Garros ou ailleurs. Mais voilà, c'est dans ce cheminement de pensée qu'il faut qu'elle se mette pour maintenant mettre tous ces enduits physiques et forcément l'inquiétude qu'elle a eue et le désarroi qui est bien compréhensible derrière elle et enfin se lancer sur le circuit.
Julien, j'entends ce que tu dis, mais admettons que le tournoi préparatoire, c'est à Strasbourg, hein,
ouais.
Oui. Se passe bien.
Eh ben, prend du temps.
Qu'est-ce qui l'empêche d'ambitionner,
je suis d'accord avec toi.
Sportif professionnel. Qu'est-ce qui l'empêche d'ambitionner de passer un ou deux tours à Roland?
Alors,
qu'est-ce qui l'empêche?
Il a mis une condition. Je suis d'accord avec toi, Pascal. Si à Strasbourg, elle arrive à gagner au moins deux matchs, je suis d'accord que après elle et que pas de pépin physique. Là, je suis d'accord qu'à Roland-Garros, elle peut se dire, bah tiens,
parce
je fais
un
troisième
tour. S'il y a bien un endroit où la déconnexion ne s'est pas encore opérée, c'est bien à Roland-Garros, parce que là, elle a vécu des émotions, elle doit avoir un feeling particulier. Quand elle va rentrer sur les cours de Roland-Garros, ça va lui rappeler de bons souvenirs. Donc, elle va être connectée positivement. Donc, si elle est débarrassée de ses soucis, si elle retrouve un peu d'ordre dans son tennis, qu'est-ce qui l'empêche d'ambitionner de passer un ou deux tours. Donc c'est pour ça que je voulais que vous attendiez que je finisse ma question. Voilà, parce qu'après, se projeter sur les tours d'après, ça ne fait pas trop sportif professionnel. Moi, je parle uniquement que la presse la laisse tranquille, que le public la laisse tranquille, ça va être difficile. Presse,
oui, non, mais ça va être difficile. Elle sera pas tranquille, regarde, on en parle.
Voilà, mais par contre, là où elle peut avoir un impact, elle... Oui, voilà, justement, est-ce que ça va pas la transcender? Ça va lui mettre la pression, mais si elle veut faire ce métier-là, c'est pour avoir la pression.
Je suis catégorique parce que je suis d'accord avec les garçons qui connaissent bien mieux ce sport que moi. Déjà, depuis son retour à la compétition, elle a du mal, elle s'attendait à mieux, j'imagine, dans ses premiers commentaires.
Elle a joué depuis 6 mois, Jérôme.
Dans ses premiers commentaires post-match et les deux matchs qu'elle a perdus, elle est déçue. Elle s'attendait à mieux.
Elle est dans un brouillard.
Elle dit qu'elle est très loin.
Légitime.
Et je pense que physiquement, elle n'était pas forcément prête.
Mais donc, c'est ça qui, moi, m'inquiète. Et puis surtout, je suis d'accord avec vous. Ça veut dire que ça ne va pas la transcender. Parce que si transcender, c'est gagner un match, passer un tour, c'est pas ça, transcender. Et moi, je pense que dans la sphère médiatique et des attentes autour d'elle, le passionné de Roland Garros, le passionné de tennis, il va suivre toute la partie, toute la saison, mais il y a des gens qui vont s'intéresser, vous les connaissez, c'est ceux qui ressortent les raquettes quand Roland Garros est à la télé. Eux, ils vont se dire, l'année dernière, on a fait finale, cette année, elle est où? Donc, ils vont attendre beaucoup plus que ça. Et pour moi, c'est soit tu as une approche, on va dire, de monter en pression, et à la limite, tu arrives à Roland, et là, tu te dis, bon, 2-3 tours, on va vibrer, mais je suis capable. Là, la montée en pression, il n'y a pas. Alors effectivement, il y a le tournoi de Strasbourg.
Mais moi, je
pose le doigt sur l'autre côté. Il faut y penser aussi. Et si ça se passe mal à Strasbourg?
Et c'est pas grave.
C'est la cata.
Non. Et c'est pour ça que
L'approche de Roland,
peut-être pas la mettre sur le central.
Si tu veux jouer une fois, tu vas jouer une fois. Mais
de mecs qui viennent juste prendre une coupette de champagne, alors que sur le Wengler et le Simone Mathieu, t'as des vrais passionnés qui ont payé leur place. Donc je pense qu'elle, là, elle aurait le soutien du public. Sur Central, ça peut être un cadeau
pour les autres. Elle peut se sentir seule, ouais, effectivement. Simon.
Tu joues, toi, Eric, ton tournoi, tu es sur Central ou sur les cours
Je prends le 14, personnellement. 14.
Et avant, c'était le cours numéro 1. C'est d'une banalité, l'an dernier, elle arrive, elle est 361e mondiale, elle a gagné quoi, 3 ITF et une fois Saint-Malo, je crois. Moi, ce que je considère, elle a fait le plus dur, je trouve, dans la carrière d'une tenniswoman française, c'est qu'elle a déjà franchi le mur que représente souvent d'exister à Roland-Garros face aux attentes exponentielles au fur et à mesure que tu arrives dans le tournoi.
Mais ça en fait encore plus des attentes, finalement,
Eric
d'avoir
souligné
ça, alors que tu venais de nulle part, tu vois.
Oui, et bien sûr, écoute, elle est comptable de ça, il ne fallait pas nous enthousiasmer autant que ça. Maintenant, en effet, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent que Loïse Boisson lorsque tu leur parles de tennis français et qui ont envie de revivre ces émotions. Est-ce qu'elle en est capable? Avec les tartes qu'elle met en coup droit, elle peut battre n'importe qui.
Elle a le jeu pour gagner Roland, Simon.
Exactement. Et moi, j'entendais Nicolas Escudé l'autre jour là sur une chaîne qui diffuse le tennis. dire que parfois il faut savoir peut-être débrancher un petit peu ne plus courir après la très très haute précision en termes de préparation physique. Sous-entendu, bon, on a toujours un petit pet quelque part. Vas-y, lâche-toi et oublie que t'as peut-être encore un peu mal. Ou est-ce que elle s'est pas un petit peu laissée enfermée, un peu traumatisée par cette série de blessures? Et est-ce que finalement elle est pas un petit peu prisonnière de ça? Donc moi j'espère que elle va retrouver les émotions, les sensations, les perceptions de l'an dernier, et que si son corps la laisse tranquille, elle va à nouveau au moins nous faire une deuxième semaine. J'ai envie d'y croire, c'est de la méthode couée, mais j'ai envie d'y croire.
C'est ce qu'on peut lui souhaiter. Là où c'est catastrophique, c'est que à l'approche du plus grand tournoi pour nous Français et pour beaucoup, on parle de Loïc Poisson parce qu'il n'y a personne d'autre. Il y a de l'attente sur elle.
Est-ce qu'elle est numéro un française?
C'est le désert derrière elle. Ben oui. Mmh. Ah oui, chez les garçons, il y a une vraie dynamique qui se met en place.
Mais Diane Paris qui est en finale d'un tournoi. Alors écoute, non, mais ne me prends pas sur ce ton. Parce que je vais te dire un truc.
J'aime pas le ton.
Il y a, lors des qualifs de Roland l'an passé, j'avais répondu à un podcast belge et j'avais dit, de toute façon, la française à suivre, c'est Loïc Boisson. Donc tu vois, je connais un peu le tennis.
Quel crack.
Et Diane Paris rejoue très
c'est
bien.
C'est vrai
tennis.
Qu'il y a le
elle est en finale.
Elle est en finale.
Moi, tout à l'heure, elle va jouer Madison Keys. Diane Paris, sur terre, ça peut être merveilleux.
Elle a le bon nom.
On a le bon nom.
C'est le pas du bien.
Ça dépend moi.
Mais non, mais.
Compte pas sur Julien.
Non, il a raison. Mais ce que disait, c'est pour revenir sur Loïs, et Jérôme disait qu'on parle. Elle a les projecteurs, parce que derrière, c'est un peu plus.
Dans sa reconstruction, ça pourrait aussi l'aider. On l'oublie un peu. Elle y va pas à pas. Mais là on attend d'elle. Parce qu'il y a, bon, à part Diane Paris, qui apparemment va nous surprendre. Mais sinon, derrière, on attend d'elle parce qu'il y a. Il y a personne d'autre, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure pour le cyclisme. Plus il y a
c'est dur, Jérôme. On attend d'elle parce qu'elle a performé à Roland Garros la saison dernière.
Oui, mais c'est aussi ce que c'est que de revenir de blessure et de pouvoir prendre le temps. Et j'ai l'impression qu'elle ne peut pas.
Eh bien, la réponse sera dès.
Elle est dans une course contre la montre.
Dès lundi, son entrée en lice à Strasbourg, a priori.
Non, c'est cet après-midi.
Ouais. Bah voilà, on aura des premières réponses déjà cet après-midi. Et puis dimanche prochain, donc pour les débuts de Roland Garros, avec toi évidemment, Eric, aux commentaires sur RMC de toute la quinzaine. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants. Il est 11h45. Les jeux du sport arrivent. Ils sont chauds bouillants. Restez bien avec nous. Venez jouer avec nous aussi au 32-16. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi.
11h46 sur RMC, c'est le grand moment dans les grandes gueules du sport. Elles sont au taquet, les GG autour du plateau. C'est parti pour les jeux du sport.
RMC, les jeux du sport.
Je vous rappelle le principe, vous allez jouer en équipe, 2 contre 2, avec pour défendre un auditeur. On va les accueillir, nos auditeurs. Aujourd'hui, Thomas et Alexandre. Salut messieurs.
Salut tout le monde.
Bonjour. Salut les gars.
La répartition des équipes que vous attendez avec impatience. Écoutez bien Thomas et Alexandre, c'est important aussi pour choisir après votre équipe. Nous allons avoir Simon Dutin avec Pascal Duprat.
Oh yes. Donc,
Julien Beneteau avec Jérôme Pinault.
Te loupe pas Beneteau parce que tu gagnes Pinault, tout, Beneteau, à chaque fois et moi je gagne jamais.
Je suis trop content de jouer avec toi Simon, t'es en feu.
Simon est un joueur mais Pascal il est à distance.
Je vais essayer de me montrer à la hauteur Simon parce que t'es vraiment bon en ce moment.
Merci
Simon, hier tu t'es un peu fait exploser par
une grande Marion Bartoli hier.
Mais j'ai une grande confiance en toi et confiance en moi.
Merci coach.
Je vous rappelle qu'il y aura une question impossible activable par un seul joueur par émission. Il est le seul à jouer et une bonne réponse vous rapportera 3 points, mais une mauvaise vous enlèvera 1 point. Et je vous rappelle aussi le cadeau à gagner, c'est une enceinte Bluetooth Partybox de Muse, une enceinte puissante avec lumière d'ambiance multicolore et micro filaire. Alexandre, tiens, je vais te laisser choisir ton équipe aujourd'hui entre Simon et Pascal ou Julien et Jérôme.
Alors c'est tout ou double, mais je vais prendre Julien et Jérôme.
Très bien, Julien, Jérôme, tu seras donc avec Alexandre.
Mes condoléances.
Allez, il a déjà perdu.
Et Thomas, tu seras donc avec Simon Dutin et Pascal Duprat. Est-ce que vous êtes prêts?
Non, mais il y a Eric Salio qui triche déjà.
Comment c'est?
Bon choix, Thomas.
Il a tenté de piquer les antisèches de Bennett et du coup, Bennett.
Pas grave.
Quand je te dis que dans le tennis, c'est un sport de tricheur.
Oh. Attention au débat. Attention au débat. Attention,
c'est mon partenaire, je dis rien.
Allez, La question a une seule réponse, le plus proche l'emporte. Combien de Français sont actuellement dans le top 100 du classement ATP ?
15.
11.
Non, j'ai gagné. Il y a eu la bonne.
Non, j'ai l'impression que c'était juste la régie qui s'est enflammée, mais ouais. 11 est un tout pile.
Alors,
mais la mexité, là, si, là on n'est pas bon là. Ça commence mal.
Mais il souffle, mais
c'est Simon, il peut Simon. T'es en feu, Simon.
Je suis en feu, Pascal.
On joue à 3 contre 2.
Bravo. Salut,
c'est
tu es convoqué en
goutte.
Allez, hop.
Statut de goutte.
Allez, hop.
Mais alors, attends,
attention, ah, tu vas te rattraper là, attention. Question bonus à enchère. C'est-à-dire que celui qui a la plus grosse enchère joue seul.
Ah, ok.
Vous avez compris ?
Combien de points ? Un point, ça vous ?
Ah oui.
Oui, toujours un point. Combien de Français seriez-vous capable de me donner ?
Combien de quoi ?
De Français dans le top 100 du classement ATP. Réfléchissez bien, celui qui a la plus grosse enchère pourra jouer. J'ai l'impression que Jérôme il a apporté.
Je commence à deux.
Moi trois.
On peut chaque fois monter.
Oui,
si
oui,
je
oui.
dis si je dis un chiffre, je peux pas en dire un.
Si
je peux
si
pas
si,
en dire
si tu peux changer après si ça te semble trop bas. Trois Jérôme Pinault. Simon, il est en train de calculer.
Quatre.
Quatre, ok. Pascal, tu peux en avoir combien?
Cinq.
Ok.
Six.
Julien, six. Est-ce que vous faites mieux que six? Très mauvaise idée cette question, ça va prendre 10 minutes. Ouais,
Bennett a 6
sur 11. Je pense qu'on peut.
On reste
peut,
sur les 6.
Il y en a 15, on va trouver 7. Moi. Je pense que j'en ai, moi là.
Ok, 7, bah, tu prends. Julien ?
Ouais, je tente 8.
Ok. Ouais, allez, bah, on va partir avec Julien. Allez, Julien, tu peux m'en sortir.
Arthur Fils.
Oui.
Hugo Humbert.
Oui.
Corentin Moutet.
Oui.
Rinderknecht ?
Oui. T'es à la moitié.
Je suis à 4 là ?
Ouais.
C'est les autres maintenant.
Alexandre Muller.
Il est pas dans le top 100.
Il est sorti ?
Ouais.
Donc c'est mort là ?
Oui.
Ah non, non.
Ah non.
Si, si. Bah non, quoi ?
Il n'y a pas de point.
Pardon ?
Ah, et nous, bah, on marque pas ce point-là.
Il est pas dans ce point.
Ah oui,
il fallait dire 9.
C'est une enchère, c'est pas une question impossible. Calmons-nous.
C'est quoi le score ? Il y a toujours 1-0 ?
2-0.
Toujours 1-0. On se calme. Question auditeur.
Vas-y, Alex, remets de l'ordre.
Je voulais juste me rappeler votre prénom aussi au moment de la réponse pour savoir lequel a répondu. Je vous demande quel joueur français a été élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga ?
Olivier Alexandre.
Thomas, Alexandre, magnifique.
Alexandre,
mais bien sûr. Il est en place.
Quel monde. Ça fait un partout.
Je suis un bon coach, moi, t'as vu ? Je réponds à aucune question, mais je coach.
On enchaîne. Question à plusieurs réponses. Donc, vous avez le droit de me citer plusieurs réponses. Qui a dit ? Là, le but, c'est de faire les JO à mon plus haut niveau en 2028. Je sais qu'il y a de quoi faire. Si je fais les choses bien dans l'ordre, en étant bien patient, je peux être un gros candidat en 2028. Non. Tout ce qu'il y a avant, ça sera du bonus. Je ne veux pas finir mon histoire olympique comme ça.
Les Virinaires.
Non.
Gracieux.
Indice, pour vous qui êtes chez vous, il s'agit d'un sportif français qui n'a pas participé au JO 2024 pour blessure.
Kevin Mayer.
Bonne réponse.
Mayer, ouais.
C'est nous ?
Oui.
C'est
pas ça. Ça fait 2-1 pour Julien et Jérôme.
Laisse-moi le temps de répondre aussi.
Vas-y.
Question.
Mais ça engueule, c'est bon.
Question,
c'est bon.
Question à une réponse. Quelle est l'affiche de la finale de D1 Arkema ?
Paris FC Lyon. Je vais dire, je suis parti.
Non, je l'ai dit, je suis parti avant.
Paris FC PSG.
C'est nous.
Flo.
C'est Maxime qui tranche en régie, ce n'est pas moi.
FC Lyon.
Bah, on a fini avant.
Il va aller regarder.
On a fini avant.
Très bien.
Mais je suis parti avant.
On a fini avant.
Non,
on s'en fout.
C'est celui qui décolle.
C'est vrai que moi, Julien est arrivé. Après, Simon a fini. Après, voilà.
C'est la ligne d'arrivée qui compte.
Bien sûr, bien sûr.
On va enchaîner. On check en régie dans le camion de la VAR.
Mais de toute façon, la bonne réponse, c'est Paris FC OL Lyon. Personne n'a dit la bonne réponse.
Attention, question à plusieurs réponses.
Oh là là.
Ce dimanche matin, qui est en tête du PGA Championship ?
McNally.
Smalley.
Non, bonne réponse.
Smalley.
Ça fait 2-2 en attendant un point potentiel.
Ça doit faire 3-2, à mon avis.
Tennis Roll, c'est un spécial pour toi.
Attention, question pour les auditeurs, Thomas et Alex.
Alexandre.
Allez, Thomas.
Allez, Thomas.
J'espère que vous m'avez écouté tout à l'heure. Quelle légende de l'UFC va faire son retour en juillet prochain après 5 ans d'absence?
Norma Gregor, Thomas.
Oui, Thomas. Bien, Thomas. Ça va faire 4-2, ça.
Ça va faire 3-2.
3-2 pour l'instant.
Il y a 3-2 pour l'instant. Il nous faut le score, là.
Attention, s'il vous plaît. Attention, on est sur la question à élimination pour 2 points.
Oh là là.
Vous allez répondre à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé.
N'oublie pas que Pascal a l'ordinateur, donc Jérôme, il faut...
Non, moi, je triche pas. Ça, tu peux avoir ma parole.
Alors, attendez, la VAR répond. Ah, Julien Beneteau, point pour Julien Beneteau.
Pardon,
même avant.
Max, arrête, non, tu vas y aller à Roland-Garros, arrête.
Attention, regardez, je ne suis pour rien. 3-3, donc la question très importante à élimination. Je vous demande de me citer les 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2010. Allez, on démarre,
de
Pascal.
De foot.
Oui.
2010, Ribéry.
Oui, oui, c'était dur à sortir celui-là. Ribéry était bien là. Allez, Julien.
Sagna.
Oui, c'est une bonne réponse. Jérôme.
Patrice Evra.
Bonne réponse. Simon.
William Gallas.
Oui, bonne réponse. Pascal.
Gaël Clichy, je me sens que je
oui,
le vois sur le reportage.
Bonne réponse. Le reportage. Il se fixe au reportage, Pascal.
Julien. Bon, allez, arrête.
Lloris.
Lloris, c'est une bonne réponse. Jérôme.
Johan Gourcuff.
C'est une bonne réponse. Simon.
Nicolas Nelka.
Oui, évidemment. Pascal.
Éric Abidal.
Oui. Julien.
Toulalan.
Oui. Jérôme.
Thierry Henry.
Bon, oui. Là, je pense que je vais y arriver. Hein.
Simon.
C'est là que j'ai des noms, même pas ils les connaissent.
C'est une bonne réponse, Simon. Sachant qu'alors, attendez, avant qu'on continue.
T'as dit quoi, Simon, là, pardon?
Sinegovu. Cette question sera la dernière. Donc, les deux points qui seront attribués seront le vainqueur. Vous êtes prêts?
D'accord.
Pascal.
Marc Planus.
Oui, c'est une bonne réponse.
Mais oui.
Julien.
Au revoir, Julien.
3.
Skilacci.
Skilacci est une bonne réponse.
Bien.
Jérôme. Ça commence à être dur.
Franck Ribéry.
Il a été dit déjà.
Non, je l'ai dit premier.
Oh, merde.
Au revoir, Jérôme. Simon.
Stéphane Mandanda
est là. Bonne réponse. Pascal.
Anthony Réveillère.
Bonne réponse.
Oui.
Julien. T'es passé sur le fil tout à l'heure, Julien. 3,
y a qui
2, 1, terminé, Julien.
Clichy. Ah, on l'a dit.
Je l'ai déjà dit.
Simon.
Quel mur. Galilée.
Alors, je.
Non, je sais pas si.
Non.
Qui ça?
Je non, mais par contre.
Vas-y, si tu en as un, Pascal.
Bah oui, Gignac.
Ah oui.
Tout à fait.
Oui, André Pascal.
Gignac.
Oui.
Oui.
C'est
oui,
Pascal. Oui. Oui.
Non.
Oui.
On a plus de temps.
Des jeux.
On a plus de temps.
Tu nous as déjà volé un point tout à l'heure.
Et victoire donc de
bravo,
Thomas qui remporte.
Simon Thomas, bravo les gars.
Félicitations à toi, Thomas. T'as participé aussi à cette victoire, Thomas. Bravo, félicitations.
Julien, mes condoléances.
Bravo. Jouer sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platines vinyle et plus encore. À découvrir sur muse-europe.com.
Merci à tous les GG d'avoir été avec moi ce matin. Vous retrouverez évidemment Georges Quirino dès 9h samedi prochain.